Les Clés de Saint-Pierre, une émission présentée par Camille Langlade.
Constatiamo in primo luogo che la pace è spesso fragile e anche derisa.
Cette voix ne vous est peut-être pas encore familière, c'est pourtant celle du collaborateur le plus proche du pape, le cardinal secrétaire d'État Tarcisio Bertone. Ancien archevêque de Gênes, il est arrivé au Vatican en septembre dernier pour prendre ses fonctions après avoir été nommé par Benoît XVI. Pour occuper ce poste clé, le pape a choisi un fidèle, un homme en qui il avait toute confiance. Il faut dire que le secrétaire d'État, sorte de premier ministre du Vatican, dirige la secrétairie d'État, le point névralgique de Saint-Pierre. En 88, Jean-Paul II définit précisément cet organe dans la Constitution apostolique Pastor Bonus. C'est, je cite l'article 39, c'est le dicastère le plus proche du souverain pontife pour l'aider dans l'exercice de sa mission suprême. Ce texte donne la définition moderne de ce qu'est la secrétairie d'État aujourd'hui. Les Clés de Saint-Pierre s'intéressent cette semaine à ce lieu central de la Curie romaine. Et pour commencer, Philippe Boutry, professeur d'histoire contemporaine à Paris 1, revient sur le rôle du secrétaire d'État et son évolution au fil des siècles.
Le secrétaire d'État est une fonction assez mineure qui apparaît à la fin du Moyen-Âge, entre le 15e et le 16e siècle. C'est tout simplement un secrétaire intime du pape. À l'époque, le véritable collaborateur du pape, c'est son neveu, le cardinal neveu, ce qui a donné naissance à l'expression de népotisme. Or, à partir de la seconde moitié du XVIIe siècle, cette fonction de cardinal neveu entre en crise, puis va disparaître. Et l'on voit advenir ce nouveau personnage, le secrétaire d'État, qui désormais est un cardinal et joue un rôle important de principal ministre et conseiller du pape. Néanmoins, il faut attendre le début du XIXe siècle pour que la secrétairie d'État assume les caractères qu'elle a conservés jusqu'à aujourd'hui. Ceci est lié à la fois à la personnalité d'un pape très spirituel, un ancien bénédictin, le pape Pie VII, qui sera l'interlocuteur, puis le prisonnier, puis en quelque sorte le vainqueur de Napoléon. Et Pie VII choisit comme cardinal d'État, secrétaire d'État, un très jeune cardinal, Ercole Consalvi. Et Consalvi, dans les premières années du XIXe siècle, va faire de la secrétairie d'État le cœur de l'appareil, en quelque sorte, administratif de l'État pontifical, et va surtout obtenir le monopole de toutes les nominations en curie, ce qui est un point essentiel. Il devient donc ce qu'on va appeler le principal ministre du pape, avec deux attributions particulières, la diplomatie d'une part, et d'autre part, il coiffe l'administration de l'état temporel des papes lorsque celui-ci va être restauré en 1814.
On entend souvent cette expression dans les médias pour parler du cardinal secrétaire d'État, c'est le numéro 2 du Vatican, on entend bien que c'est une figure centrale. Quelle formation ont eu ces cardinaux secrétaires d'État au fil de l'histoire, au fil des ans ?
La plupart de ces cardinaux secrétaires d'État, pour le 19e ou pour le 20e siècle, ont une très forte expérience diplomatique. On pourrait citer, bien sûr, ici, cardinal Méry Delval, du temps de Pie X, du temps de Pie XI, le cardinal Pacelli, qui deviendra lui-même pape et qui est un très grand diplomate. Néanmoins, cette formation diplomatique n'est pas unique. Par exemple, le cardinal Gaspari, qui a été cardinal secrétaire d'État des papes Benoît XV et Pie XI, est essentiellement un juriste, un canoniste. Il y a donc une certaine variété dans le choix des cardinaux secrétaires d'État, même si la compétence diplomatique reste quand même un élément essentiel de la fonction.
En 1988, Jean-Paul II divise la secrétairie d'État en deux sections. La section des affaires générales, les prélats qui y travaillent ouvrent le courrier adressé au pape et y répondent. Ce sont des évêques ou des fidèles qui expriment leur admiration ou leur requête. Ils envoient des intentions de prière. L'autre section est en charge des relations avec les États. C'est le volet plus diplomatique de l'activité du pape. Au total, 200 collaborateurs environ travaillent en plusieurs langues et s'occupent des discours du pape. C'est l'activité centrale de la secrétaire d'État. Des discours qu'il faut parfois inspirer, alimenter ou écrire. Des discours qu'il faut aussi traduire. Un travail extrêmement délicat. Pendant 20 ans, de 1967 à 87, Monseigneur Séjourné a travaillé à la section pour les affaires générales. Il y a longtemps dirigé la section française sous Jean-Paul II. Parti à la retraite dans la région d'Angers, il nous livre ses souvenirs.
La traduction a une grande importance. Le pape peut faire lui-même un discours, mais vous devinez bien que ce serait difficile que le pape prépare lui-même de A à Z tous ses discours. Dans tous les États, c'est comme ça. Ce qu'il y a, c'est qu'il les revoit. Il les revoit tous, mais il peut les donner à préparer à quelqu'un. Et la secrétaire d'État, avec le cardinal secrétaire d'État et le substitut, choisissent quelqu'un de la secrétaire d'État pour préparer une trame de discours, mais qui est toujours montré au substitut et au cardinal secrétaire d'État avant le pape, et le pape se prononce là-dessus. Pensez à tous les discours que le pape fait aux évêques en visite ad limina, qui regardent des choses pastorales. Prenez le discours des vœux, l'énorme discours au corps diplomatique. Je ne sais pas, c'est peut-être le pape qui l'a fait directement, mais il a dû le confier au cardinal secrétaire d'État ou à d'autres, de préparer au moins des éléments.
Quel souvenir avez-vous de votre collaboration et de votre mission avec Jean-Paul II ?
Alors j'ai beaucoup, beaucoup de souvenirs avec Jean-Paul II, parce que dès le début, il a fait des discours en français, donc il fallait ou traduire ou préparer. À ce moment-là, il appelait parfois la personne en question. Moi, j'étais très souvent chez le pape. À l'occasion d'un repas, il faisait venir les personnes qui devaient collaborer avec lui. Et surtout pour les voyages. Dès le début, par exemple, de son pontificat, en 80, il est allé en Afrique et il y avait 70 discours à prononcer dans 6 pays d'Afrique. Eh bien, là-dessus, il y en avait 58 en français. Ce qui supposait que les collaborateurs sachent bien la situation du pays. Mais le pape lui-même appelait les collaborateurs en question pour s'entretenir avec eux, dire, ben voilà, c'est dans ce sens-là que je veux parler, vous voyez. C'était captivant parce que on était mêlés vraiment au ministère du pape. Mais si vous voulez des petits souvenirs particuliers, moi, par exemple, j'étais très impressionné par le début du voyage à Paris de Jean-Paul II en 80. Il recevait les protestants et les orthodoxes. Et comme il trouvait que le discours préparé n'était pas assez complet pour répondre au discours qui lui avait été fait par un protestant, alors là, il a inventé, alors que c'était pas sa langue, mais enfin, il connaissait bien le français, il a inventé tout un discours. C'est là qu'il a dit la fameuse phrase, j'ai compris maintenant que l'Église respire à deux poumons, l'occidental et l'oriental. Et si bien que je lui ai demandé après, comme c'était enregistré, si on devait publier ça, puisque ça n'avait pas été... Oui, oui, bien sûr, il m'a appelé chez lui, on a parlé de ce voyage en France.
On imagine bien l'intensité de ce travail, son aspect passionnant et la charge importante aussi que cela représentait. Combien est-ce que vous étiez et comment est-ce que vous êtes formé pour assumer cette charge stratégique ?
Alors, nous étions en tout à ce moment-là, je parle surtout du temps de Jean-Paul II, mais ça n'a pas beaucoup changé, environ 200 pour toutes les sections de langue. Dans chaque section de langue, nous n'étions que 3 ou 4. On était 5 à tout casser pour la section de langue française. On travaille avec peu de personnel. Alors la formation de ce personnel, eh bien, on peut l'avoir avant, si vous voulez. Il y a ceux qui ont fait l'école de nonciature, l'académie. Mais habituellement, ce sont des prêtres comme moi qui ont eu un certain rôle dans leur diocèse, un rôle pastoral. Moi, je suis venu, vous savez, sans une préparation particulière. C'est un souvenir heureux dans ma vie, alors que c'était pas toujours facile, c'était austère, vous savez, il fallait faire face à une quantité énorme de travail. Mais si vous voulez, un homme comme Jean-Paul II, et c'est pareil pour les autres, mettait à l'aise, c'est l'art de ces grands hommes, il permettait qu'on en parle devant lui, on pouvait poser des questions, mais ça se passait très simplement. Nous respections totalement ce que le pape pouvait avoir envie de dire, bien sûr. Nous les étions à son service.